En fait, on se rend compte que la nature, c'est le meilleur exemple de l'économie circulaire. Elle ne crée pas de déchets, la nature. Si vous regardez le cycle complet de la nature, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple de l'économie circulaire. Donc, en termes d'exemple, je trouve que c'est hyper pertinent de vouloir s'en inspirer.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans les coulisses de la cosmétique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce pourrait être la devise d'Expanscience qui m'a permis de réaliser cet épisode. Cette entreprise, française et familiale, est leader dans l'upcycling de déchets végétaux à destination de l'industrie cosmétique depuis plusieurs décennies. Et oui, qui l'eût cru ? Dans la peau d'un avocat ou dans les pépins d'un fruit de la passion, se cachent des trésors cosmétiques insoupçonnés. Je suis donc allée à la rencontre d'Armelle Lepeignec, directrice des actifs cosmétiques chez Expanscience, afin de découvrir cette expertise méconnue et de plus en plus plébiscitée. On en a aussi profité pour parler des engagements de l'entreprise, que ce soit en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou dans le commerce équitable. Un entretien passionnant qui vous en apprendra un peu plus, j'en suis certaine, sur un secteur qui ne se limite vraiment pas aux marques, loin de là. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Armelle Lepeignec.
Bonjour Chantal.
Alors, Expanscience est une entreprise qui fête ses 70 ans. Qui l'a créée ?
Alors, c'est en 1950 que commence notre histoire, alors que l'entrepreneur Paul Berthomé s'associe à un pharmacien pour créer le tout premier lait de toilette pour bébé, le lait de toilette Mucella. C'est vraiment une innovation technique, mais c'est aussi une façon de libérer du temps pour les parents. En 1957, l'entreprise se diversifie en créant un pôle rhumatologie, puis en 1967, la création de l'activité Active Cosmétique, donc je suis aujourd'hui la directrice. Ce sont donc trois pôles d'excellence que Laboratoire Expansion se regroupe aujourd'hui, qui sont distribués dans 101 pays. L'entreprise, c'est donc un laboratoire pharmaceutique, est aujourd'hui dirigée par le fils d'un des deux fondateurs, donc Jean-Paul Berthomé. C'est une société familiale et française.
D'accord. Alors l'entreprise a 70 ans, mais son fondateur était incroyablement visionnaire, puisqu'il a imaginé et développé l'upcycling, avant même que le mot n'existe hein, d'ailleurs. Quand et comment est née cette idée de valoriser les déchets végétaux ?
Alors, l'activité donc actif cosmétique, peut-être que je rappelle un peu ce que c'est qu'un actif cosmétique finalement. Donc, c'est une matière première que l'on vend auprès des sociétés qui fabriquent des produits finis cosmétiques. Et donc, derrière actif cosmétique, on va retrouver des actifs hydratants, des actifs amincissants, des actifs anti-rides, tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans vos crèmes. Donc, cette activité, elle est née grâce à l'upcycling du coproduit de la fabrication de pièces clédine. Donc, pièces clédine, c'est notre médicament phare des laboratoires Expanscience contre l'arthrose. Et en fait, quand on fabrique ce médicament, il y a de l'huile d'avocat qui était produite, mais qui n'était pas utilisée.
D'accord, donc, parce que le principe actif de ce médicament venait de l'avocat.
Tout à fait.
OK.
Entre autres, avocat à soja. Donc, okay. Il y avait effectivement une partie qui était à partir de l'avocat. Mais en fait, il y avait de l'huile qui n'était pas utilisée. Donc en fait, cette huile était bien trop précieuse et de bonne qualité pour être gaspillée. Donc en fait, on a commencé à valoriser cette huile d'avocat, pour la vendre à l'industrie cosmétique. Ça a été vraiment la première pierre de notre activité active cosmétique. D'accord. Et aujourd'hui, cette notion d'upcycling, elle est vraiment très présente, puisque 64% de notre catalogue d'actifs cosmétiques est représenté par des actifs qui proviennent de l'upcycling.
Ok. Alors, quelles sont vos matières premières stars ?
Alors, stars, j'ai envie de dire que toutes nos matières premières sont un peu super stars pour nous. On a quand même quatre matières premières que nous affectionnons tout particulièrement. Bien sûr, l'avocat, puisque historiquement, il est cher à Expanscience. Il reste au cœur de notre activité, avec pas moins de 6 ingrédients qui sont produits à partir de cette matière première. Et puis, au fil des années, notre catalogue s'est étoffé, nos filières se sont diversifiées. En 2016, on a fait l'acquisition au Pérou d'une usine qui transformait des avocats. Et l'idée, c'était de reprendre la filière en direct pour garantir la traçabilité. Et par ce biais, on a eu accès à d'autres matières premières, comme par exemple la maca, bio, équitable, la maracuja, qui est un fruit de la passion jaune. On a travaillé aussi à la construction d'autres filières plus locales en France, comme la filière de lupin bio, donc qui est vraiment une matière première noble sur laquelle on fait plusieurs actifs. Et quand on parle de matière première star, j'ai envie de parler aussi un peu de procédé star, qui, notamment la distillation moléculaire, qui consiste à concentrer les molécules nobles des huiles, donc ce qu'on appelle les insaponifiables.
Ouais.
Et en fait, de ce procédé sont nés pas mal d'actifs, dont un qui s'appelle Soline, qui est un insaponifiable de l'huile de tournesol, et qui, grâce à ses propriétés hydratantes et apaisantes, pour nous, on peut le mettre dans n'importe quel type de formule. Et en plus, il est bio et en plus, il est France.
Ah, pas mal. Il coche toutes les cases.
Il coche les cases, celui-là.
Et oui, donc vous utilisez en fait plusieurs procédés pour extraire les différents actifs.
Oui, tout à fait. On utilise trois procédés. L'extraction, l'hydrolyse enzymatique et la spécialité brevetée des laboratoires Expansions dont je viens de vous parler, qui est la distillation moléculaire. L'extraction, ça consiste en fait à extraire des molécules d'intérêt, notamment comme des polyphénols, qui sont des antioxydants forts, d'un mélange de plantes avec de l'eau et des solvants végétaux. L'hydrolyse, là, on est vraiment dans la biotechnologie. C'est un procédé enzymatique qui permet d'obtenir des sucres ou des peptides qui sont naturellement présents dans les matières premières. Et enfin, la distillation moléculaire, ça permet d'extraire d'une huile la fraction insaponifiable, qui est ces molécules précieuses et actives. Ces trois procédés d'extraction sont dits des procédés de chimie verte, car ils respectent l'homme et l'environnement.
D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilisation de solvants ou de choses comme ça ?
Alors, il peut y avoir dans le procédé d'extraction un solvant, mais qui est un solvant végétal, d'origine végétale exclusivement, quoi.
D'accord. Et quel type d'actifs parvenez-vous à extraire ?
Alors en fait, nos actifs se partagent en deux grandes catégories, ce qu'on appelle les liposolubles, donc solubles dans les huiles, ou les hydrosolubles, qui sont plutôt solubles dans l'eau. Et en fait, on a, grâce à notre procédé de distillation moléculaire, on a pas mal d'actifs qui sont huileux, qui s'incorporent très facilement dans tout type de crème. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils s'incorporent aussi dans les poudres, et notamment les maquillages soins. Mmh. Et également, vraiment très en vogue en ce moment, ce sont les formes solides.
Ouais.
Et les formes solides sont donc des formes sans eau et nécessitent en fait des actifs huileux. Et donc, c'est vraiment très important pour nous de développer des actifs huileux. Bien sûr, on a aussi des actifs aqueux qui sont solubles dans l'eau, comme des peptides, des sucres, les polyphénols. Donc, plus classique, je dirais, en forme de galénique.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous développez un ingrédient plutôt qu'un autre ?
Alors, c'est une bonne adéquation, je dirais, entre les besoins du marché et nos sourcings qui sont déjà identifiés. En fait, on va vraiment privilégier de travailler avec des filières qui sont déjà mises en place, c'est-à-dire que nous essayons d'exploiter les différentes parties d'une plante pour éviter le gaspillage et la création de déchets. Ça, c'est un premier axe. On a également un axe que, étant donné que c'est vraiment très long de mettre en place une filière, d'assurer la traçabilité d'une filière, on s'attache à travailler avec les mêmes partenaires après sur des végétaux différents, mais d'une région particulière. Donc, je prends un exemple. Par exemple, au Burkina Faso, on a établi plusieurs filières avec les mêmes partenaires. On travaille avec les mêmes communautés, mais par contre sur différents végétaux qui permettent d'avoir un sourcing et un accès à des molécules vraiment, vraiment différentes. Les filières sont vraiment un des paramètres clés de notre circuit de décision et on s'attache aussi à vraiment ausculter les matières. Typiquement, dans une plante, on essaye d'identifier quelles sont les molécules d'intérêt. Et pour ça, on s'appuie fortement sur notre laboratoire qui est basé à Épernon, en Eure-et-Loire, qui a toutes les compétences pour effectuer des tests d'efficacité biologique qui guideront notre choix final sur un peu, j'ai envie de dire, le trio filière, process, voire plante et activité. Parce que bien sûr, quand vous voulez un anti-âge, ce ne sont pas les mêmes molécules que quand vous voulez un raffermissant ou un amincissant, par exemple.
Oui, d'accord. Et la naturalité des ingrédients est un aspect très important pour vous, je crois. On ne trouve pas d'actifs naturels hyper transformés chez Expansions.
Non, on ne trouve pas. Ça le mérite.
Ouais.
Non, on ne trouve pas parce qu'en fait, on essaye vraiment de préserver au maximum la naturalité de nos ingrédients pour qu'ils nous fassent bénéficier de la richesse moléculaire. C'est pourquoi on laisse vraiment que les étapes critiques pour assurer la qualité et l'efficacité de nos ingrédients. On ne propose pas de mélange de plantes, on ne propose pas d'actifs qui ont des conservateurs. C'est vraiment très important. Le bio, c'est important pour nos développements. Mais j'ai envie de dire que plutôt que la certification bio de l'actif, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'utilisation de plantes cultivées bio, donc de plantes bio, qui c'est vraiment important parce que ça nous permet de garantir une traçabilité et une sécurité de l'origine de la matière première, en fait.
Ok. Et toutes les plantes sont bio ou pas forcément ?
Alors, malheureusement, toutes les plantes ne peuvent pas être bio. Il y a des cultures qui aujourd'hui ne sont pas biologiques. Je dirais juste que quand on a la possibilité d'avoir des cultures biologiques, on choisit la culture biologique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec des partenaires en les aidant à changer d'une culture conventionnelle vers une culture organique, en fait, une culture biologique.
D'accord.
Donc, on va leur apporter un savoir-faire, on va essayer de les aider à transformer leur culture. De la même manière qu'on ne peut pas forcément prétendre au fait qu'ils gagneront bien leur vie avec juste des volumes que nous, on va vendre en actifs cosmétiques. Donc, c'est pour ça qu'aussi, une de nos challenges, c'est de les aider à mieux cultiver, à ne pas récolter n'importe comment, à faire de la culture biologique pour créer de la valeur chez eux et qu'ils puissent revendre également leurs matières premières pour d'autres applications, pour de l'alimentaire ou autre.
Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il est possible de valoriser tous les déchets végétaux ?
Alors, je sais pas.
C'est la colle.
probablement que oui. J'ai envie de dire que chaque végétal renferme des molécules d'intérêt qu'il est probablement possible d'extraire. Je vais vous donner un exemple que l'on maîtrise en tout cas chez nous. On travaille avec le fruit de la passion. Alors, je sais pas si vous le savez, mais quand on produit des jus de fruits de la passion, on n'utilise pas les graines. Donc, on n'utilise que la pulpe. Et en fait, la pulpe, ensuite, est diluée. Et c'est comme ça que vous obtenez des jus de fruits. Et les graines, elles sont écartées. Donc, soit elles sont jetées, soit elles sont données à l'alimentation animale. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on achète les graines, on les presse. Donc, quand vous pressez des graines, vous obtenez de l'huile vierge de fruits de la passion, donc, qui a une odeur, en plus, assez incroyable.
Ouais.
Grâce à nos procédés de distillation moléculaire, on part de cette huile, on la distille, on obtient un actif qui s'appelle passioline, qui est un actif cicatrisant. Et en fait, quand on presse les graines, on obtient de l'huile d'un côté, mais on obtient également un coproduit qu'on appelle un tourteau. Et en fait, de ce tourteau, on va extraire des molécules qui sont des polyphénols et on va en faire un autre actif qui s'appelle Ormesia, qui est un actif anti-pollution. Donc, ça veut dire qu'on est parti d'un déchet, graine déchet, et qu'avec cette graine, on est capable de faire deux actifs et un ingrédient sensoriel. Après, pour généraliser sur les déchets, j'imagine que beaucoup de déchets sont vraiment très intéressants. Il y a quand même deux choses sur lesquelles il faut être vigilant. C'est la qualité, il faut qu'elle soit constante, et la quantité. Il faut quand même qu'il y ait un approvisionnement suffisant pour construire dessus une filière industrielle.
Ouais, c'est clair. Et dans les entreprises, de plus en plus, on parle de donner du sens à ce que l'on fait. Et comment ça se traduit chez Expanscience ? Je sais que vous avez un gros volet RSE, commerce équitable.
Alors, effectivement, la RSE, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'activité, hein, cœur de l'activité de mon activité active cosmétique, mais au cœur des laboratoires Expanscience, que ce soit sur la partie dermocosmétique ou rhumatologie, c'est porté par notre président depuis plus de 15 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et de très engageant. Et cette démarche de RSE, elle est reconnue comme exemplaire par, je ne sais pas si vous connaissez le label Engagé RSE, et ce, depuis 2013. On est également Gold par EcoVadis depuis 2018. Et puis, 2018, c'était aussi une année très importante puisque c'est l'année où Expanscience est devenue le premier laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique au monde à rejoindre le mouvement B Corp.
Ah oui.
Donc, B Corp, c'est quand même c'est un mouvement d'origine américaine, mais on est plutôt sous une forme de communauté. Cette communauté, en fait, c'est un peu, je dirais, une maxime, c'est d'être le meilleur pour le monde et non d'être le meilleur du monde. Et c'est une communauté qui reprend aussi bien des sociétés de n'importe quelle industrie,
d'accord,
voire n'importe quelle typologie, ça peut être des assurances, des sociétés de conseil, des petites sociétés, des grosses sociétés. Enfin, c'est un monde en fait qui a envie de faire partager, de partager des valeurs et de travailler un peu main dans la main. Et notamment cette raison d'être RSE, elle s'est inscrite maintenant dans nos statuts juridiques de la société. Depuis cette adhésion à B Corp. Alors, ce n'est pas une adhésion au sens juste adhésion, hein,
oui.
C'est un audit. Hein.
Oui, c'est un audit.
On va pas se mentir.
Il faut cocher quelques cases.
Ouais. Mais c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment très important pour nous. Et puis, en 2020, Expansion, ça a vu sa filière MACA labellisée Fair for Life. Donc, c'est vraiment un écho à tout ce qui a déjà été entrepris. Donc, Fair for Life, c'est un label de commerce équitable, pour le coup. Là, on est vraiment sur une filière propre. Donc, ça, c'est la filière MACA, sur laquelle on a deux actifs. Et en fait, par contre, l'audit se passe du producteur jusqu'à l'usine chez nous, mais également les fonctions support, les fonctions communication, les fonctions RH. Tout le monde a été audité.
D'accord.
Bon, j'avoue qu'on a été les premiers surpris. Au début, c'était vraiment limité à la MACA voilà. En interne.
Ouais.
Et en fait, non, c'est vraiment... toute la société. Donc voilà, c'était des premiers pas vers ce commerce équitable. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin avec la labellisation d'autres actifs, si c'est possible, de Fair for Life. Et en fait, l'intérêt de Fair for Life, on est un peu sur un système tout le monde est gagnant, parce que le producteur est gagnant, puisque du coup, on va fixer des prix planchers. On va s'accorder avec lui sur un volume d'achat, sur des prix d'achat. On va mettre en place un fonds de développement, donc un fonds économique qui est proportionnel à ce qu'on leur achète.
Okay.
Donc, d'un côté, la phase, là, je dirais que la partie amont est gagnante. Nous, également, et nos clients aussi, puisque je rappelle que nos clients sont les acteurs de l'industrie cosmétique. Et en fait, en achetant un ingrédient qui est labellisé Fair for Life, eux, ils peuvent mettre en avant sur leur packaging qu'ils achètent un ingrédient issu du commerce équitable.
Ah oui, d'accord.
Donc, je dirais comme ça un peu, tout le monde
s'y retrouve. Ok. Et donc, oui, comme vous disiez, l'idée, c'est que d'autres ingrédients soient comme ça labellisés.
Je dirais qu'on a fait le plus gros du travail, parce qu'une fois que Expansion, ça a été audité Fair for Life, si l'on veut ajouter une nouvelle filière, le gros est un peu déjà fait. Après, il y aura des petits suppléments à ajouter, mais... Après, il faut que ce soit des filières bien identifiées, où on connaisse effectivement vraiment très en amont l'origine de nos matières, ce qui est à peu près le cas pour quand même l'ensemble de nos matières premières.
D'accord. Et je crois que vous investissez aussi dans la formation des agriculteurs sur les bonnes pratiques, ce genre de choses.
Oui, effectivement. Quand on peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme il est un peu utopique de croire que les agriculteurs vont vivre uniquement dans ce que l'on peut leur acheter pour la fabrication de matières premières cosmétiques. On est encore sur des volumes qui ne sont quand même pas énormes. C'est leur permettre de mieux cultiver pour mieux vendre et valoriser leurs propres matières et en développer d'autres pour d'autres marchés qui nécessitent de plus gros volumes.
D'accord. Ça veut dire, par exemple, les initiés à la jachère ou des choses comme ça?
Oui, c'est leur apprendre à cultiver leur terre, les laisser reposer, à ne pas utiliser trop de pesticides ou de matières premières indésirables, et surtout d'attendre pour les récoltes le bon moment et ne pas récolter au milieu. Ouais. Enfin,
d'un cycle.
On s'adosse. Aussi, on a travaillé avec des universitaires sur des maladies, sur des plantes qui pouvaient être touchées par des maladies, voire, justement, c'était sur l'avocat, voir comment on pouvait les aider à vaincre un peu ces maladies, en fait.
Et comment vous voyez l'avenir des cosmétiques? Est-ce qu'ils seront de plus en plus naturels? Enfin, en tout cas, les ingrédients seront-ils de plus en plus naturels, bio? Est-ce qu'il y aura une accélération du développement de la chimie verte?
Alors, effectivement, je pense que la tendance du naturel, de la clean beauty, s'accélère. On a vraiment une forte demande pour des produits de plus en plus vertueux pour l'homme, également pour l'environnement. On est vraiment sur un virage où il y a une prise de conscience un peu générale. Et je pense que bientôt, ce genre de demande, en fait, deviendra un prérequis, quoi. Ah, ça ne veut pas dire que la chimie, c'est moche. Hein. Je pense que ce n'est pas du tout le message, ouais, parce qu'il y a des belles choses dans la chimie également. Mais je pense que faire attention à préserver son environnement, notamment, ça va être vraiment, vraiment fondamental. C'est pourquoi il est important de ne pas se reposer sur ce que l'on fait actuellement, mais de voir comment on peut avancer plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire plus loin. Et je pense qu'il y a quand même un autre volet qui est quand même très peu marqué aujourd'hui, c'est le volet social, qui est quand même souvent négligé. Et je pense que si on veut continuer, si on veut continuer dans cette durabilité, il faut vraiment prendre en considération ce volet social. Alors typiquement, Fair for Life, c'est un point, certainement pas le seul, mais c'est vraiment de prendre cette sociabilité, j'ai envie de dire, en considération.
Ouais, d'accord. Et pour Expansions, alors l'avenir, c'est quoi?
Alors, pour Expansions, l'avenir, je ne le connais pas, surtout en ce moment-là. Mais,
oui, c'est vrai. Mais,
on va dire que le ciel bleu...
Oui.
je dirais que d'une manière générale, c'est aller toujours plus loin dans ce que nous réalisons. On travaille quand même vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Hein, on n'est pas forcément dans l'amélioration de rupture, mais on est vraiment sur toujours améliorer ce que l'on fait, aussi bien au niveau de nos process, au niveau de nos sourcings. Et je pense qu'en fait, il s'agit plus de protéger la planète, mais moi, j'ai envie de dire que c'est commencer à la réparer. Donc, en limitant nos impacts, en compensant ceux que l'on ne peut pas limiter, parce qu'on en crée quand même. Mais surtout, c'est aussi en s'en inspirant, parce que c'est un peu une réflexion qu'on avait l'autre jour en écoutant une conférence. Et en fait, on se rend compte que la nature, c'est le meilleur exemple de l'économie circulaire. Elle crée pas de déchets, la nature. Si vous regardez le cycle complet de la nature, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple de l'économie circulaire. Donc, en termes d'exemple, je trouve que c'est hyper pertinent de vouloir s'en inspirer. Alors après, on a des très jolis développements et actions qui sont en cours, mais qui sont encore un petit peu confidentielles, qui vont dans cette mouvance de comment on peut rendre à la nature tout ce qu'elle nous a déjà offert pendant pas mal d'années. Et puis, on a pris un engagement également en 2030. Alors, pas que au niveau de l'activité active, mais également pour la partie Mustela et dermocosmétique. C'est la neutralité carbone,
ouais.
D'être à carbone zéro en 2030.
D'accord. Ça veut dire quoi, alors, du coup, neutralité carbone?
Alors, on est en train de construire déjà notre bilan carbone. Hein. Donc, le bilan carbone, c'est vraiment... on est en équivalent CO2. De nos intrants, donc de la matière première, mais aussi de toutes les matières premières qui peuvent être utilisées pour vendre, pour cultiver, pour faire nos matières premières, jusqu'à l'utilisation des produits finis.
Okay.
Alors, produits finis, quand je parle produits finis, notamment chez Mustela, ça va être de prendre en compte que un gel nettoyant, c'est un équivalent nombre de douches, donc nombre de litres d'eau. Donc, c'est vraiment
c'est global.
Oui,
hein.
c'est un peu global.
Ouais.
Et donc, tout ça, ça a une empreinte carbone. Hein, tout ce cycle, je dirais, un peu global. Donc, le premier axe, c'est le diminuer. Donc, c'est diminuer cette empreinte dans nos propres actions. Et puis, ce que l'on ne pourra pas diminuer, c'est compenser. Alors, compenser, ce n'est pas forcément planter des arbres, planter des forêts avec tous les mêmes arbres. Bon, ça peut être une action. Je ne dis pas qu'elle est inintéressante, mais il y a plein de moyens de compenser. Et il y a plein de moyens d'investir dans des projets aussi bien d'énergie propre, d'agroforesterie. Enfin, voilà, il y a plein de projets qui sont à côté de chez nous ou beaucoup plus loin, qui peuvent être très intéressants, qui compensent pas directement mais indirectement cette empreinte, hein, et qui permettent en fait de reprotéger notre planète, quoi.
Ouais. Est-ce que vous trouvez encore de nouveaux actifs? Et quel est le dernier que vous avez découvert?
Alors, oui, bien sûr qu'on trouve encore de nouveaux actifs, heureusement. ça, c'est l'avantage de travailler avec la nature, hein, on ne va pas se le cacher. La nature, c'est vraiment une source de trésors, hein, et chaque mélange de molécules d'intérêt est vraiment une source d'innovation. Et après, on peut avoir aussi des sources d'innovation dans l'origine, dans l'efficacité. Enfin, voilà, il y a quand même plusieurs approches à l'innovation. Le dernier né, c'est un actif que l'on a nommé Number 6. Alors, pourquoi Number 6? C'est le sixième extrait de l'avocat. Et on lui a encore trouvé plein de surprises. Donc, ah oui. Malgré le fait que ce soit encore un ingrédient, donc un actif qui est élaboré à partir de notre première une matière première avocat, on lui a trouvé des activités très intéressantes, notamment avec des propriétés anti-cernes, anti-poche et révélateurs de l'éclat de la peau. Alors anti-cernes, anti-poche, on est quand même sur un secteur un peu porteur en ce moment, parce qu'avec le masque, il y a pas mal de choses qu'on ne voit plus.
Ouais.
On peut voir les yeux, on peut voir les poches aussi. Mmh. Donc ainsi, avec cet actif, on utilise toutes les parties de l'avocat afin de rien gaspiller. Et typiquement, les avocats de départ sont des avocats qui sont, pourraient rentrer dans la catégorie les fruits moches. Il y avait la communication autour de l'utilisation des
légumes moches.
Les légumes moches. C'est des fruits qui sont déclassés à catégorie 3 ou catégorie 4, qui ne peuvent pas être exportés et vendus tels quels.
D'accord.
Parce qu'ils ont des imperfections.
Ouais, ils ont des défauts.
Ils ont vraiment des défauts. Et donc, avec cet avocat, en fait, ce sourcing avocat, tous ces actifs, on a vraiment un très large panel de claims d'activité. Est-ce qu'on est aussi bien sur, par exemple, un contrôle du sébum, donc pour les peaux grasses ou les pellicules. On peut être sur des actifs repulpants, donc pour booster votre propre acide hyaluronique.
D'accord.
On va être sur des propriétés détoxifiantes, exfoliantes, anti-cernes. Donc voilà, à partir d'un même fruit, avec des procédés, des molécules extraites différentes, on arrive à un panel d'activités.
Tout un panel d'activités. Ouais,
donc on n'a pas de doute sur le fait qu'on puisse encore trouver longtemps plein d'innovations intéressantes.
C'est clair. Et alors, qui peut faire appel à vous si un jeune créateur, une jeune créatrice de marque veut faire appel à vous? Comment ça se passe?
Alors, toutes les tailles d'entreprise, hein, de la petite société cosmétique au grand groupe international peuvent faire appel à nous. Nous avons vraiment à cœur de travailler en étroite collaboration avec nos clients, car chaque société est unique. Donc, il faut aussi adapter un petit peu l'offre à la demande. On n'a pas forcément les mêmes demandes selon la typologie de la société cliente. Et nous, on s'engage à fournir avec application nos meilleurs actifs. Mais néanmoins, après, c'est à la marque de formuler et de trouver ainsi la meilleure recette. On peut lui donner des conseils, mais néanmoins, la recette est à faire après. Ouais. Par l'industrie. Pour nous contacter, c'est rien de plus simple. Il est possible de déposer une demande de contact sur notre site Expansions, envoyer un email à contact-ingrédients avec un s@expansions.com ou bien de nous visiter notre compte Instagram également.
Ah, vous avez un compte Instagram.
Ouais, c'est assez récent. Il y a une petite année.
Bien. Bonne idée. Merci beaucoup, Armelle.
Merci, Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.